le journal Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour. Les urgences au bord de la rupture. Après 5 mois de grève, le mouvement continue de se durcir. 220 hôpitaux sont concernés. Reportage à la Timone, à Marseille, où l'on attend parfois 16 heures sur un brancard. Quelle piste pour en sortir? La ministre de la Santé annonce des moyens supplémentaires pour la rentrée, nous dira Solène Lehen. La grève également dans les airs. Les vols Transavia risquent d'être perturbés aujourd'hui. La CGT appelle le personnel de bord de la filiale low cost d'Air France à cesser le travail jusqu'à dimanche. Un nom à retenir, celui d'Ursula von Leyen, la future présidente de la Commission européenne. L'armée allemande a dit au revoir hier en grande pompe à sa ministre de la Défense. Nous irons à Berlin dans ce journal. Nager avec les dauphins ou même juste aller les regarder de près, ça fait rêver, mais mieux vaut garder ses distances car cet afflux de visiteurs perturbe les mammifères marins. Reportage sur la presqu'île de Gien. Et puis c'est le rendez-vous des fans de rock. La route du rock à Saint-Malo a débuté hier soir avec 2 groupes anglais qui dépotent, nous dira Corinne Pellissier. Et puis c'est un des films les plus attendus de l'été, Roubaix, une lumière, son réalisateur et votre invité Laetitia.
Oui, Arnaud Desplechin, dans le grand entretien, le réalisateur signe un polar tourné dans sa chère ville de Roubaix, histoire d'un commissariat de meurtre. Et comme toujours chez Desplechin, l'homme, l'humain, l'humanité au centre du film. Vous pourrez lui poser vos questions au 01 45 24 7000, le standard est ouvert, ou sur l'appli France Inter ou sur le site franceinter.fr.
France Inter.
Il dénonce un système de santé malade. Les personnels des urgences ne désarment pas. Malgré la prime mensuelle de 100 euros accordée début juillet aux infirmiers et aides-soignants, le mouvement de grève entre dans son 6e mois. La liste des services en grève ne cesse de s'allonger, comme à l'hôpital de la Timone à Marseille. Le 2e plus grand service de France vient de rejoindre le mouvement. Le reportage d'Alexia Capuccio.
Dans les couloirs de la Timone, une scène surréaliste. Une dame de 99 ans attend d'être prise en charge depuis plus de 16 heures. Une situation trop habituelle pour Monique, infirmière. Les personnels de la Timone manquent de tout.
Le manque de personnel journalier, le manque de brancards pour pouvoir mettre les patients dessus. Il n'y a pas de lit. Les services ne tiennent pas compte des urgences et du coup, il nous manque des lits pour pouvoir hospitaliser les gens. Et du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent aux urgences.
Seulement 46 brancards au lieu des 90 prévus. Une situation inacceptable pour les personnels des 2e urgences de France. Dans la salle d'attente, Yanis prend son mal en patience depuis 2 heures.
Je suis rentré, je suis parti à la salle d'attente. J'ai attendu une demi-heure. La maman m'a fait l'attention. Elle m'a passe le bracelet et me replace en salle d'attente et j'attends.
Mais parfois, après de longues heures d'attente, les patients s'énervent et c'est les personnels qui encaissent les coups. Julia est aide-soignante.
Ça crée une pression au niveau des patients aussi et qui deviennent très agressifs. On est sans arrêt au commissariat pour des dépôts de plaintes, mais ça n'avance pas. Ça n'a fait rien avancer. On se fait agresser au quotidien, je veux dire que ce soit en parole ou physiquement. On se fait tabasser, il n'y a pas d'autre mot.
Un reportage signé Alexia Capuccio de France Bleu Provence. Au total, le gouvernement a débloqué 70 millions d'euros au mois de juin, ce qui n'a donc pas enrayé le mouvement, malgré les promesses d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, de prendre des mesures à la rentrée. La grève touche désormais la moitié des hôpitaux publics dotés d'un service d'urgence. Solène Lehen.
La mobilisation continue de progresser selon le collectif Interurgence, 220 services d'urgence désormais en grève. Mais pour le ministère de la Santé, cette mobilisation est au contraire en baisse avec 195 services en grève puisque certains ont obtenu des accords après négociation avec leur directeur d'hôpital. Quoi qu'il en soit, à l'hôpital public, environ un service d'urgence sur 2 compte des agents grévistes. Les revendications se résument en quelques mots: plus d'embauches, plus de moyens, plus de lits, des hausses de salaire et davantage de sécurité. Le ministère de la Santé le précise bien, c'est à la direction de chaque hôpital d'engager des négociations avec les grévistes et éventuellement de débloquer des moyens supplémentaires, s'il le faut, avec l'appui des agences régionales de santé. Négociations au niveau local donc pour ce mois d'août. À la rentrée, la ministre Agnès Buzyn devrait annoncer de nouvelles mesures. Le collectif Interurgence a lui prévu une assemblée générale le 10 septembre, la CGT une journée d'action pour la défense de l'hôpital le lendemain.
Solène Lehen. C'est un autre mouvement qui commence aujourd'hui, celui des hôtesses et stewards de Transavia.
Oui, Transavia, c'est la filiale low cost d'Air France. La CGT annonce de nombreuses perturbations jusqu'à dimanche. La direction assure, elle, que 95% des vols sont maintenus, avec toutefois des risques de perturbations de dernière minute. Alors que se passe-t-il à Transavia? Le syndicat dénonce le mépris de la direction, un climat social désastreux et des incidents sur plusieurs vols. Faustine Calmel.
Une confiance complètement rompue, se désolent les élus CGT chez Transavia. Ils dénoncent pêle-mêle le management désastreux, le manque de pilotes, des défaillances techniques, des changements de vol de dernière minute et des personnels à bout, mentalement et physiquement. Cette grève, en plein week-end du 15 août...
C'est une claque.
Loïc Tribolaspierre, délégué général du Centre d'études et de prospectives stratégiques.
C'est envoyer un signal fort. On est en désaccord total avec la direction. Nous allons perturber la rentabilité de la compagnie et en même temps dire aux passagers, ça va vraiment pas.
D'autant que Transavia entre dans une nouvelle phase. Le principal syndicat de pilotes d'Air France a accepté fin juillet la fin de la limitation du nombre d'avions pour sa filiale, ouvrant ainsi la voie à son expansion sur le créneau des compagnies à bas coût.
Ça nécessite de forts investissements. C'est-à-dire de redéfinir la gamme de ces appareils, ce qui est en train de faire Air France, et puis une politique sociale, une politique de management adaptée à ce type d'activité. On ne peut pas tout exiger des salariés, mais on ne peut pas aussi oublier les réalités économiques, et entre autres très singulières, de celles qui sont les activités de commerce ou de transport low cost.
Des efforts pourraient être demandés à tous les personnels dans les mois qui viennent. La CGT a d'ailleurs déposé son préavis jusqu'en janvier prochain.
Et une grève qui tombe mal pour les voyageurs en plein week-end du 15 août. Transavia propose à ceux qu'ils peuvent un report sans frais ou un remboursement du voyage. À Orly, hier soir, un homme qui avait un couteau en céramique dans son bagage à main a été interpellé. Il s'apprêtait justement à prendre un vol Transavia vers Barcelone. Après avoir passé les contrôles de sécurité, une femme se présentant comme sa sœur, avait prévenu Aéroport de Paris d'un risque d'attentat, mais un différend conjugal serait à l'origine de l'appel. L'homme est actuellement en garde à vue. À Hong Kong, certains craignent un nouveau Tiananmen. Alors que les troupes chinoises se massent à la frontière avec le territoire autonome, les risques de répression violente augmentent à la veille d'un nouveau week-end de manifestations. Et les exhortations au calme, par ailleurs, se multiplient. Dans un encart publié dans la presse, l'homme le plus riche de Hong Kong demande à la population de remplacer la colère par l'amour. Donald Trump s'est dit inquiet. Le président américain doit aborder le sujet bientôt, a-t-il dit, avec son homologue chinois. Deux élus démocrates américaines interdites d'entrer en Israël, Ilhan Omar et Rachida Tlaib, devaient se rendre ce week-end à Tel Aviv et dans les territoires palestiniens. La décision prise après un tweet de Donald Trump les traitant d'antisémites et appelant Israël à ne pas les accueillir est critiquée jusque dans les rangs conservateurs. Allez, c'est un nom qu'il va falloir apprendre à prononcer, celui de l'Allemande Ursula von der Leyen. Elle sera la première femme à présider la Commission européenne. Avant qu'elle ne prenne ses fonctions en novembre, l'armée allemande a fait ses adieux hier soir à sa ministre de la Défense et elle a sorti le grand jeu, Ludovic Piétenu.
Grande parade militaire, des soldats portant des flambeaux, l'orchestre de l'état-major de l'armée allemande rend hommage à sa ministre et ses presque 6 années passées à la tête de la Bundeswehr. Non sans mal, la moitié des chars et des avions n'est pas en état de fonctionner et Ursula von der Leyen, même présidente de la Commission européenne, devra répondre très bientôt d'accusations de copinage devant une commission d'enquête des députés allemands pour des contrats attribués à des consultants extérieurs au ministère, des proches, sans appel d'offres. C'est donc en s'étant rendue très impopulaire auprès des Allemands qu'elle quitte Berlin et le gouvernement, mais hier soir, avec les honneurs... Elle se tient debout. À ses côtés, celle qui lui succède, Annegret Kramp-Karrenbauer, surnommée AKK, la dauphine de Merkel, qui s'initie son entrée au gouvernement. La chancelière, sujette récemment à des crises de tremblements, est dans l'ombre, en retrait et assise, là où elle aurait dû, selon le protocole, se trouver debout, aux côtés de ces deux femmes fidèles parmi les fidèles. Une image qui illustre la fin d'une époque politique en cours en Allemagne, le vent du changement, comme l'a chanté il y a 30 ans après la chute du mur de Berlin le groupe allemand Scorpions, Wind of Change, chanson choisie pour l'occasion par von der Leyen. Ça fait partie de la tradition, les partants décident des choix musicaux en prêtant toujours attention aux messages politiques et aux symboles. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Voilà, Wind of Change, ça nous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas Laetitia?
Je ne dirai rien. Allez, on retourne en France avec la pré-rentrée politique d'Emmanuel Macron.
Certains y ont vu un signe adressé à la droite. Emmanuel Macron s'est montré très proche hier de l'ex-président Nicolas Sarkozy lors des cérémonies de commémoration du débarquement en Provence. Le parti du président, LREM, aborde la rentrée avec ce même souci de ligne et des tensions sont à prévoir. Adrien Serrière.
C'est un nouvel exercice d'équilibriste qui attend la République en marche. Un coup à droite pour faire passer la réforme des retraites, un coup à gauche pour la généralisation de la PMA. Cette stratégie qui a fait le succès électoral d'Emmanuel Macron sera encore mise à l'épreuve avec les dossiers clivants de la rentrée. Pour l'acte 2 de son quinquennat, l'exécutif ne peut plus compter sur une majorité au garde-à-vous. Certains parlementaires déçus n'hésitent plus à sortir du rang et dénoncer un fonctionnement opaque, un système verrouillé dans lequel ils n'ont pas leur mot à dire. L'aile gauche commence à se structurer, on est encore loin d'une fronde, mais le malaise va grandissant. Et il touche aussi les petites mains du mouvement, des militants parfois frustrés qui aimeraient être davantage consultés, impliqués en vue des municipales, alors que toutes les investitures se décident à Paris. Côté finances, tout va bien, les marcheurs cherchent même un nouveau siège, et ils ont fini par céder à une tradition de l'ancien monde, l'université de rentrée. Elle aura lieu chez Alain Juppé à Bordeaux début septembre. Édouard Philippe viendra rappeler qu'il est le chef de la majorité, même si Emmanuel Macron reste le ciment de ce jeune mouvement.
Adrien Serrière. Trois enquêtes de l'IGPN visent une même compagnie de police de Seine-Saint-Denis. La police des polices s'interroge après trois interventions musclées. La dernière, il y a une semaine, dans la cité Cordon, à Saint-Ouen. Une vidéo montre un jeune homme frappé lors de son interpellation par des agents de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis. Une scène filmée, car dans la cité, certains jeunes estiment que sans preuve, ces violences sont impossibles à dénoncer. Le reportage d'Agera Mohamed.
Oh, il a mis un coup de pied dans la tête.
Cette vidéo de l'interpellation violente il y a une semaine a fait le tour de la cité et pour Bilal, 17 ans, c'est une confirmation.
Aux yeux du public, ils font les victimes, mais en vrai, c'est eux qui cherchent.
Son copain Shaïn se souvient lui aussi d'un face-à-face tendu avec les policiers.
On leur a juste dit qu'on attendait des amis à nous pour aller jouer au foot. Et eux, ils voulaient pas comprendre, ils nous ont dégagé, nous pousser. Pour moi, c'est une provocation parce qu'ils attendent qu'on réagisse. Pour qu'ils disent que c'est nous qu'on a commencé.
Sauf qu'aujourd'hui, plus question de se laisser faire.
Non, il y a quelques années, j'aurais dit c'est comme ça, c'est la loi. Alors que maintenant, on a plus de droits.
Vous n'en avez pas plus, vous avez les mêmes qu'il y a quelques années.
Quand on était plus petit, on pensait pas à filmer, à prouver la chose. Alors que maintenant, on prouve.
Sortir son téléphone portable lors d'un contrôle d'identité ou d'une interpellation, c'est devenu la routine.
C'est incontestable, la preuve. Le fait, ils sont là.
Et tant pis si on ne sait pas ce qui a pu se passer avant ou après les images tournées. Il faut dire qu'avec les gilets jaunes, les violences policières ont fait la une des médias, ce qui fait un peu sourire Marwan.
Les gilets jaunes, ils ont dénoncé ça. Ça a fait directement polémique, alors que nous, ça fait plus de 15 ans, on dénonce ça et il n'y a rien du tout.
Et si poursuivre en justice des policiers ne fait plus peur à ces jeunes, les faire condamner c'est une autre histoire.
Il y en a, ils vont porter plainte, mais si porter plainte ça marche pas, bah ils règlent justice eux-mêmes, c'est normal, je les comprends.
Parce que finalement, face aux policiers, ces jeunes gardent la même idée en tête.
Leurs paroles, ils sont plus importantes que les nôtres.
Un reportage d'Agera Mohamed de France Bleu, Paris. L'incendie dans l'Aude est fixé. Au total, 900 hectares ont brûlé au sud-est de Carcassonne. 150 pompiers restent cependant mobilisés pour surveiller la zone et éviter les reprises de feu. Regardez les dauphins nager en pleine Méditerranée, ça fait rêver. Des compagnies de bateaux ont repéré le filon et proposent des sorties en mer pour observer les cétacés. Mais voilà, certaines associations de protection de la nature alertent. On est à la limite du harcèlement. Il vaut mieux éviter les dauphins, en tout cas les observer à distance si on les aime vraiment. Reportage sur la presqu'île de Gien de Célia Quiret.
Le bruit des navires, la pollution chimique, plastique, les collisions, les dauphins de Méditerranée rencontrent déjà de nombreux obstacles. Cédric Brun possède un bateau de promenade à Hyères. Il emmène les touristes de l'autre côté de Porquerolles pour observer les cétacés en gardant une certaine distance. Mais il ne propose pas de séance de nage avec les dauphins. Pour lui, cela devrait même être interdit.
On est loin du cliché flipper le dauphin qui vient et qui fait des câlins. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça reste des animaux très puissants, donc il y a quand même un risque. C'est très intrusif, hein, puisqu'on va devoir passer devant, jeter nos nageurs dessus. Ils vivent pas dans le même environnement que nous, ces animaux. Donc ils ont pas le même système immunitaire, ils ont pas les mêmes bactéries et vice-versa. Donc c'est pas une bonne chose d'aller nager avec les animaux.
Or aujourd'hui, certaines compagnies envoient des avions au-dessus du large pour repérer les animaux. Les bateaux arrivent plus vite vers les dauphins. L'association Souffleurs d'écume s'y oppose. Joséphine Chazot défend un label d'observation responsable des cétacés.
Si vous arrivez avec un bateau et que vous vous mettez au milieu du groupe, les animaux vont être obligés de s'écarter et vous pouvez avoir des jeunes qui sont séparés des adultes ou alors des groupes de femelles qui sont séparés. Si c'est une activité qui n'est pas encadrée, peut y avoir des déplacements de population ou peut y avoir des affaiblissements des espèces à force d'être soumis à cette pression.
Or en Méditerranée, moins de la moitié des compagnies de bateaux possèdent le label d'observation responsable des cétacés.
Le reportage de Célia Quiret, comment regarder les dauphins sans les embêter. Tous nos conseils sur franceinter.fr. Les Anglais ont débarqué à Saint-Malo en toute amitié puisqu'il s'agit de musique. Rock.
Oh la blague.
Début de la route du rock hier avec deux groupes de la jeune scène britannique très prometteurs, Idols et Black Midi. Et c'est Corinne Pellissier qui nous le dit, Rock is not dead.
Un morceau dédicacé à l'Union Européenne, un autre contre le fascisme et cet hymne féministe devenu culte, Mother. Idols sur scène, c'est du gros son saturé, une batterie complètement folle et un guitariste en short de bain qui se jette dans la foule pendant les morceaux.
C'est dingue, c'est incroyable.
Public forcément conquis.
C'est thèmes sociaux, politiques à fond, le Brexit, les immigrants, enfin, le racisme, tout ça quoi.
Comme en 77 avec la naissance du mouvement punk, il y a toute une génération de jeunes groupes anglais qui remettent un peu l'urgence, la rage et... conscience politique aussi dans la musique.
Mais le groupe du très charismatique Joe Talbot n'est pas le seul à exprimer sa rage à l'exact opposé de la tendance musicale actuelle. Nouveau venu sur la scène britannique avec un premier album sorti en juin dernier, les londoniens de Black Midi s'y connaissent aussi en matière de chaos, sans jamais avoir à prononcer un seul mot en dehors des morceaux. Le live comme terrain de jeu pour ces anciens de la Brit School, tous âgés d'à peine 20 ans, Cameron Picton, le bassiste.
Il y a beaucoup d'intérêt en musique à sortir de sa zone de confort, repousser ses limites, apprendre et tenter des choses qu'on n'a jamais faites avant, tout en s'amusant. Nous, ce qu'on aime, c'est quand la musique parle pour nous.
Nouvelle démonstration de force, le mois prochain, à la Boule Noire à Paris.
Voilà, la route du rock, c'est jusqu'à samedi à Saint-Malo avec en clôture encore des Anglais, Métronomie.
Merci Corinne Audouin.